Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver, très très bon début de semaine. Alors, ma femme d'aujourd'hui, architecte de formation et de métier, elle va ensuite faire un va-et-vient entre ses deux amours, l'architecture et la couture, avant de s'installer définitivement dans la création de vêtements. Elle nous raconte la poursuite de son rêve.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Sarah Chraibi, bonjour. Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lella Sarah?
Ça va très très bien, merci de me recevoir.
Alors Sarah Chraibi, vous êtes créatrice de mode, créatrice de la marque Sarah Chraibi justement. Mais avant de rentrer dans la mode, vous avez fait des études d'architecture.
Tout à fait, c'était mon premier amour. J'ai toujours aimé la création et je pense qu'on ne tombe jamais très très loin de ce qu'on aime. Quand j'avais 18 ans et qu'il fallait choisir un métier, c'est celui-là que j'ai choisi. Après, il y a beaucoup de personnes qui font des changements de carrière comme ça et qui suivent encore d'autres passions. Donc, quand j'étais enfant, j'ai appris la couture avec ma mère. C'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée. J'ai toujours fabriqué mes vêtements en étant adolescente et même celles de mes amis. Et cet amour-là pour la confection, pour le fait de fabriquer des vêtements, m'est resté. Ensuite, j'ai fait des études d'architecture parce que je voulais faire quelque chose qui soit considéré comme quelque chose de sérieux. Mmh. C'était uniquement dans ma tête parce que le vêtement, c'est aussi quelque chose de très sérieux, dépendamment de comment on le fait. Et cette idée de travailler sur un métier de structure, un métier qui conçoit des choses en dur, qui conçoit des villes, m'avait beaucoup plu quand j'avais 18 ans. Mmh. Et puis, il y a eu un autre moment où j'ai eu mon premier enfant. J'étais à Paris, j'étais seule. Et vraiment, il y a eu un grand questionnement. Et je suis revenue à ce moment-là à mon amour pour la couture. Et à un moment de la vie, une porte s'est ouverte dans le sens de la couture et une autre a été peut-être un peu plus compliqué. Et moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup les signes. Et c'était un signe pour me rapprocher de la couture.
Mmh. Est-ce qu'on peut creuser ensemble un petit peu par rapport à ces deux signes, ces deux portes, celle qui s'est ouverte et celle qui s'est fermée? Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Sarah?
Écoutez, il y a des choses qui sont de la vie quotidienne, vraiment, réellement. Mmh. Lorsque vous avez un premier enfant, que vous vous trouvez à l'étranger, il est difficile que vous soyez l'employé de quelqu'un, surtout lorsque vous êtes assez jeune, vous ne savez pas encore très très bien faire, et vraiment c'était un petit peu compliqué. En étant étudiante d'architecture, j'ai été plutôt bonne élève, j'étais très très heureuse de faire de l'architecture. J'ai eu mon premier travail, ça s'est plutôt bien passé, j'ai voulu continuer mes études et je suis tombée enceinte. Et réellement c'est ce qui s'est passé. Et au moment où ce premier enfant est arrivé, je n'avais pas imaginé que être employée quelque part allait être compliqué et que je n'avais peut-être pas encore déjà assez d'expérience pour être totalement 100% à mon compte. Mmh. Et puis à ce moment-là, une autre porte s'est ouverte et je me suis mise à me dire, mais alors maintenant que je suis seule, qu'est-ce que je sais faire d'autre et que je peux faire réellement toute seule? Et réellement en étant avec ce bébé à la maison. Et cette porte-là s'est ouverte. Et vraiment, à ce moment-là, j'ai eu des amis qui m'ont demandé des robes de mariée parce que je venais de me marier moi-même quelques temps auparavant et qu'ils ont vu la mienne et que je l'avais réalisée. Ou ce genre de choses. Ce genre de choses qui font que vous sentez un appel. Et puis, il y a eu autre chose, c'est que j'ai participé à un défilé. Il y a eu la presse qui a acclamé mon travail et il y a eu une espèce de standing ovation à la fin de ce défilé. C'était sur le podium du festival de Casablanca Fashion Week, une manifestation qui n'a plus lieu aujourd'hui, d'ailleurs de laquelle on est tous orphelins. Et cette standing ovation m'a vraiment beaucoup beaucoup touchée et m'a fait dire que peut-être que je devrais faire ça. À la suite de ça, j'ai continué à faire de l'architecture en tant qu'architecte, mais c'est comme s'il y avait eu réellement un appel. Et cet appel-là avait été très, très fort. L'appel de personnes qui m'ont réellement demandé de le faire. Et ensuite, l'histoire a été peut-être un peu plus compliquée. Il fallait tenir.
Tenir les deux. Survivre aux trois, c'est-à-dire à la maternité, à l'architecture et puis à cette autre passion.
C'est ça, exactement. En fait, il fallait survivre à la passion, réellement. Disons que le chemin était difficile. Et puis, il y a eu d'autres signes. Il y a eu vraiment des rêves que j'ai fait, des choses qui comme des appels de très, très loin. Des rêves que je prenais des chemins un peu plus périlleux et que je trouvais de l'or sur ces chemins-là. Et ce genre de choses auxquelles je crois beaucoup. Et je les ai pris comme des espèces de visions. Et la vie a fait que j'ai suivi ce chemin plutôt que le premier qui était celui de mes études.
Alors, chemin périlleux, justement, c'était quoi les choses les plus compliquées?
Ben, écoutez, la vérité, le début parisien, parce que c'était complexe, et parce qu'on est nombreux, et parce que beaucoup de personnes se veulent créateurs, mais peu résistent à la difficulté des premières années, à la difficulté de ne pas encore avoir de nom, de n'être personne dans un pays, de devoir tout commencer dès le départ et de devoir réellement fonder une marque avec tous ses codes, avec sa manière de faire. En fait, il n'y a pas une seule manière d'être créateur. Il y a plusieurs, autant de manières que de créateurs et autant de vocabulaire. En fait, la difficulté de, à la fois de créer quelque chose du point de vue culturel et du point de vue de ce que l'on fabrique porte sens, mais également de créer une entreprise qui marche en tant qu'entreprise.
Oui, qui génère un revenu aussi.
Et qui génère un revenu auquel qui permet d'avoir une vie décente.
Tout à fait.
Qui permet, si vous avez des collaborateurs, que ces collaborateurs puissent vivre dignement. Et tout cela, c'est quelque chose qui prend quelque temps, qui prend le temps de se forger réellement. Et puis, si c'était un métier qui était facile, je pense que cela se saurait. C'est un métier qui est difficile, qui demande beaucoup d'engagement auprès des gens qui vous attendent, auprès de vos clients, auprès des personnes avec lesquelles vous travaillez, auprès des artisans. Et tout cela est un engagement au quotidien.
Ça a été plus simple, justement, de se réaliser au Maroc plutôt qu'en France? Moins compliqué, on va dire. Plus simple, non, c'est réducteur, mais moins compliqué.
Il y a des choses qui sont plus simples et des choses qui sont plus complexes. Ce qui est plus simple au Maroc, c'est que on peut se lancer un peu avec des involtures sans avoir peur qu'on vous tombe dessus, sans avoir peur d'être déjà très très organisé, de tout bien faire, que tous vos contrats soient tout bétonnés et que tout soit contractuel, que toutes les actions, toutes les démarches, vous pouvez vous lancer un peu avec des involtures. Et ensuite, prendre un temps pour vous organiser, ce qui n'est absolument pas possible lorsque vous êtes en France. Lorsque vous êtes en France, avant de faire toute action, avant de vous installer quelque part, avant
faut que ce soit codifié.
Voir un client, tout doit être extrêmement codifié, ce qui rend les choses très complexes. Vous ne pouvez pas juste vous lancer parce que vous avez décidé de faire un vêtement à un de vos amis. Vous ne pouvez pas faire ça. Tout est contractuel et tout vous soumet à une législation bien précise et à une nomenclature et tout ça, qui fait que à la fois quand vous vous lancez, vous êtes protégé et vous ne faites pas de bêtises, mais en même temps, cette difficulté à se lancer fait que ça rend les choses plus rigides. Pour ma part, j'ai travaillé en France en tant que créatrice pendant 3 années, 3 années qui ont été très formatrices, à l'issue desquelles avec mon mari, nous avons décidé de faire notre parcours au Maroc. Nous voulions vraiment servir ce pays et c'est quelqu'un à qui le Maroc a beaucoup donné. Je suis issue de l'enseignement public marocain pour mon lycée, pour mes études supérieures et vraiment je pense que cet apprentissage que m'a donné le Maroc était grand et que j'avais quelque chose à faire ici au Maroc. j'avais un chemin à faire, j'avais des choses à apprendre à mes enfants, je pouvais apporter quelque chose ici.
Donc aujourd'hui, vous êtes créatrice de mode, mais vous êtes aussi, en quelque sorte, chef d'entreprise.
Exactement, totalement. Ouais. Il y a les paillettes, il y a les contrats et les factures.
Et les factures, exactement. Et c'est ça, mais quand vous dites justement il y a aussi des choses à rendre à mon pays, c'est aussi ça, c'est générer du travail, c'est avoir une équipe. Voilà, quand on est chef d'entreprise, on fait travailler des gens.
Totalement, totalement. À ce propos, je pense qu'il y a des manières de faire traditionnelles au Maroc. Lorsque vous êtes chef d'entreprise, d'une entreprise de couture, vous employez plusieurs personnes qui travaillent à la tâche finalement. Et c'est quelque chose auquel je crois peu, parce que pour moi, un employé qui travaille à la tâche, c'est un employé qui a toujours peur pour son travail, qui a toujours juste besoin de le finir vite. Un employé qui travaille à la tâche, c'est un employé qui a toujours peur de perdre son boulot, alors que quelqu'un qui est salarié, il va prendre le temps de faire les choses parce qu'il n'a pas peur. Il n'a pas peur de perdre son travail, il n'a pas peur de faire des tests, pour inventer des nouvelles choses. Il est totalement dédié parce que sa problématique est juste de créer quelque chose qui va permettre de faire quelque chose de beau et de travailler pour l'amour du geste. Alors que lorsque vous travaillez à la tâche, vous avez juste besoin qu'on vous dise une consigne qui est claire et qui soit le plus précise possible pour que vous la fassiez vite.
Donc vous avez des salariés, c'est une équipe vraiment...
Totalement. Ouais. Mon équipe, on va dire, pour 95% des personnes est une équipe de salariés à plein temps. Il arrive qu'on ait besoin de renforts ou de personnes qui vont venir en soutien à l'équipe, mais c'est réellement à des moments précis de l'année et très très peu. Et au final, ce qui se passe, c'est que lorsqu'une personne est revenue plusieurs fois, elle est plébiscitée par l'équipe et on lui demande souvent de rester. Autant que l'entreprise peut le supporter. C'est une petite entreprise, nous ne sommes pas nombreux encore. Mais toutes les fois qu'une personne est revenue plusieurs fois, au final, elle est restée.
Alors, Sarah Shraibi, vous avez un autre prénom, c'est Siham. Siham Sarah Shraibi.
Oui, Siham Sarah Shraibi.
Justement, pourquoi deux prénoms?
Il paraîtrait que mes parents ne se mettaient jamais d'accord et qu'ils décidaient toujours d'avoir des enfants qui ont deux prénoms.
Et donc, et finalement, c'est l'enfant qui choisit son prénom du quotidien.
En réalité, c'est quand on est enfant, on choisit pour vous un nom.
Ouais.
Moi, dans ma vie quotidienne, beaucoup de personnes m'appellent Siham. Mes parents m'appellent Siham. Et pour moi, il y a une espèce de double vie dans ces deux prénoms. Il y a le prénom du quotidien et il y a le prénom de la marque. La marque, c'est Sarah Shraibi. J'ai choisi ce prénom-là. Peut-être qu'il sonnait peut-être un peu plus international ou je ne sais pas. Mais en tous les cas, j'aime avoir ces deux vies-là. Ma vie quotidienne et ma vie de créatrice, celle qui va aller sur les réseaux sociaux, celle qui va présenter un travail, qui va se présenter en tant qu'artiste. Et peut-être un prénom peut-être plus privé.
C'est un prénom aussi qui va te protéger. Le fait d'avoir un prénom privé, c'est pour te détacher complètement de ton travail quand il y a des retours négatifs, quand il y a une presse qui n'est pas...
Non, même pas exactement, mais en tous les cas, je suis quelqu'un d'assez privé. Je ne vais pas, par exemple, étaler ma vie sur les réseaux sociaux. Je vais toujours mettre en avant plutôt mon travail que ma personne. Dans cette question des deux prénoms, il y a aussi cela et il y a aussi ce que l'on fait pour la création et ce que l'on fait en tant que personne. Et en tant que personne, je suis la maman de mes enfants, je suis une épouse, je suis moi-même et j'entends protéger ce côté assez personnel de la vie. Et en tant que marque, on a une personnalité publique. Et moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit la personnalité publique de mes créations plutôt que la mienne. C'est-à-dire que, par exemple, vous ne me verrez jamais être l'égérie de ma marque en portant mes vêtements et en essayant et en faisant des essayages et en disant laquelle me va le mieux. Ça, c'est quelque chose que vous ne verrez jamais, qui n'est pas dans mon naturel.
Et pour s'exporter, justement, comment vous gagnez des clientes à l'international?
Alors, aujourd'hui, je vais vous dire... C'est le pas dans lequel la maison est aujourd'hui réellement le plus engagée, c'est de gagner de la visibilité à l'international. C'est l'étape à laquelle je suis aujourd'hui. Je vous avoue que vous faites un pas aujourd'hui. Il y a les réseaux sociaux, il y a Internet et cela aide beaucoup. Et on entend souvent parler de vous. Vous faites un tapis rouge, vous faites des actions qui finissent par porter leurs fruits. Mmh. Peut-être qu'il n'y a pas une seule action à faire, mais plusieurs, les unes à côté des autres. Vous faites un salon international, vous
habillez
présentez
une star,
votre travail. Vous habillez une star, vous faites un film qui plaît bien, qui a de bons retours, ce genre de choses. Et il se trouve qu'à un moment donné, votre travail se trouve remarqué. Et comme cela, vous commencez à gagner des clients et pour moi, c'est cela, être reconnu. Et j'avoue que ce chemin, c'est celui que la maison commence à prendre et j'espère le prendre de plus en plus.
Alors, si un jour, on devait vous demander de choisir l'architecture ou la couture, revenir à l'architecture ou rester dans ce que vous faites?
Aujourd'hui, le choix a déjà été fait depuis quelques années de faire de la mode. Je pense que peut-être dans plusieurs années, je reviendrai à l'architecture, mais peut-être autrement. Je ne pourrai jamais renier ce travail sur le textile, sur la peau, toutes ces choses-là. Je ne pourrai jamais le renier. En revanche, peut-être que je reviendrai... par le mobilier ou par du travail de design.
Ouais.
Mais je pense réellement que le chemin pris vers la mode est quelque part irrévocable. Je ne sais pas qu'il retient mon architecture. Je pense que je fais de la mode en tant qu'architecte.
C'est vrai, il y a beaucoup de géométrie dans vos créations.
Il y a de la géométrie, il y a une certaine rigueur. Une certaine
lisibilité
de la structure du vêtement. Il y a aussi une recherche d'aller à l'essentiel et de ne pas avoir de fioritures. Et lorsque, par exemple, je choisis de mettre un motif, j'essaye de le mettre de façon architecturale, de façon à ce qu'on ne puisse pas l'ôter. En tant qu'architecte, j'ai beaucoup aimé les œuvres modernes. Et dans la modernité, il y avait cette idée que l'ornement gratuit, celui qui est là juste pour faire joli, n'avait pas sa place. Je serais peut-être plus nuancée sur ce propos-là parce que je pense que l'ornement dit quelque chose de culturel et qu'il a sa place dans toute œuvre, mais que cet ornement que l'on peut enlever facilement sans que l'œuvre ne soit changée, celui-là, je n'y adhère pas. Je voudrais que chaque ornement vienne dire quelque chose, vienne porter un point d'orgue sur le vêtement, sur l'allure de la personne, sur quelque chose sur lequel on a envie de mettre une lumière particulière. Par exemple, une personne qui aurait un joli port d'épaule, je viendrais poser un motif sur cette épaule-là justement pour la montrer, ou alors peut-être une rondeur à cacher en détournant le regard vers ailleurs, ou quelque chose de subtil, une couleur de regard que l'on viendra retrouver dans une couleur de vêtement. Enfin, toutes ces choses-là qui font que réellement, il va y avoir un dialogue entre la personne qui porte le vêtement et le motif, quelque part.
Alors, la mariée de Sarah Chraïbi, elle est comment?
Elle est plutôt simple. Elle aime bouger. C'est d'abord une femme qui aime bouger, qui aime plaire, qui ne voudra pas rester, qui n'est pas une figure de représentation uniquement, c'est une mariée qui s'amuse, qui se célèbre, qui est légère, qui n'est pas une mariée rebelle, donc pas du tout. Loin de là, c'est une mariée qui aime les traditions, qui est dans cette espèce de moment de passation de pouvoir entre les femmes d'avant et les femmes d'aujourd'hui, qui respecte ce côté assez traditionnel du mariage et l'institution, en tous les cas, l'institution patrimoniale qu'est le mariage. Mais c'est une mariée qui est joyeuse, qui célèbre la vie, qui danse, qui va peut-être même danser sur une table, qui va pouvoir être libre de ses mouvements. Et d'ailleurs, en général, la femme Sarah Chaevi est une femme qui célèbre son corps, qui célèbre le mouvement, qui ne va jamais être dans le côté extrêmement ostentatoire juste pour la beauté de l'objet. Non, pas du tout. Un objet est beau aussi parce qu'il a un beau mouvement.
Sarah, merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Je vous remercie, merci de m'avoir invitée et j'espère que beaucoup d'autres personnes suivront des chemins de passion comme celui-ci.
Absolument. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes extraordinaires, du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.